to the same part.
Bonjour tout le monde, bonjour. L'émission spectaculaire commence aujourd'hui, mercredi 5 février 2014, il est un peu plus de 14h mais à peine. Christophe Rollin au micro, Gérald est déjà en place, nos invités à savoir Sophie Assante, Camille Pasquier, Jean-Marc Galera et puis d'autres personnes encore prennent place à l'instant, ce n'est pas très important disons de prendre place tout de suite, les micros sont coupés, il n'y a que moi qui ai la parole. L'émission spectaculaire se propose aujourd'hui de recevoir des spectacles qui vont avoir lieu, ça n'a pas encore commencé au Théâtre des Clochards Célestes. Un peu plus haut sur les pentes de la Croix-Rousse, je donnerai l'adresse tout à l'heure ainsi que le numéro de téléphone. Deux spectacles, Camille Pasquier pour Solo et puis Sophie Assante ainsi que Jean-Marc Galera pour Zoom. Ils nous diront, les invités, qui ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ont fait. Bref, ils indiqueront tout cela jusqu'à 15h comme tous les mercredis. Nous sommes sur Radio Canu 102.2 de la bande FM à Lyon ou bien écoutez-nous également sur internet, le site radiocanu.org. Nous commençons comme d'habitude, programmation musicale due à Gérald, In the Beginning de Élise Caron avec Lucas Gillet, extrait de l'album A Thin Sea of Flesh, des poèmes de Dylan Thomas, première chanson, d'ailleurs, ouverture du CD In the Beginning au tout début. Gérald nous en dira éventuellement quelques mots et puis ensuite nous laisserons parler tous nos invités. Nous commençons, spectaculaire, comme tous les mercredis.
The brain was sold and sold in the thought
before the pitch was forking to the sun, before the veins were shaking in their sieve, bloodshot and scattered to the winds of light, the ribbed original of love.
Élise Caron allait continuer encore à chanter, à déclamer des poèmes de Dylan Thomas, mais nous l'avons interrompu, il s'agissait de In the Beginning, au tout début. Effectivement, il est 14h05, 6, 7 à la pendule de Radio Canu, mais il est 14h également 6, un peu partout dans le monde, je suppose. Gérald, souhaites-tu nous indiquer deux, trois choses ?
Donc, Dylan Thomas est un poète anglais, 1914-1953, il a l'air d'être mort jeune. C'est un album, c'est, je crois, le 5-6e album de Élise Caron. Ça fait plusieurs émissions que je voulais passer Élise Caron, qui, à mon sens, est une excellente chanteuse, qui a une voix magnifique. Il me semble qu'elle a été la chanteuse officielle de l'Orchestre National de Jazz. Elle a une formation à la fois lyrique, elle est auteur, compositeur, interprète. Elle a fait des albums pour les enfants, qui s'est connu peut-être album pour les petites oreilles, qui est très bien, inspiré de Debussy, de Ravel, de Fauré. C'est pas débilitant du tout pour les enfants, ce qui est rare. Elle a commis avec un orchestre de jazz un album. Elle a réussi à mettre Sade en musique, des textes philosophiques un peu ardus de Sade. Elle a fait des albums avec des jazzman, Vincent Courtois, avec des chœurs de Robert Wyatt. Bon, elle est très talentueuse, je trouve, et une voix très parfaite, quoi.
Alors, magnifique transition. Elle est très talentueuse avec une voix parfaite. Il s'agit notamment de ce thème d'émission avec des femmes que nous recevons, Camille Pasquier ainsi que Sophie Assante. Tu viens de dire donc qu'elle est très talentueuse avec une voix parfaite. On va pouvoir s'en rendre compte avec Camille. Sophie va arriver dans quelques instants. Jean-Marc pourra s'occuper d'un point masculin tout de même. C'est un peu le point commun que nous avons trouvé sur ces deux spectacles qui commencent le vendredi 7 février. Il s'agit dans l'ordre chronologique de la soirée. C'est d'abord solo à 19h au théâtre des Clochards Célestes, et ensuite une heure et quart après, Zoom. Jean-Marc est ici pour Zoom, mais nous allons être galants, Camille est avec nous, et puis Camille ouvre la soirée à 19h au Théâtre des Clochards Célestes. Qui êtes-vous, Camille? D'où venez-vous? Que faites-vous? Vous nous parlerez de Zoom plus précisément dans quelques instants, mais d'abord vous-même, et puis peut-être que Sophie arrivera, et surtout Jean-Marc pourra également dire quelques mots de lui. Je vous en prie, Camille, c'est à vous la parole.
Bonjour, alors oui, je vais commencer par me présenter, puis après je vous parlerai de solo, hein, n'est-ce pas? Non, pas de Zoom, voilà, bon, on est...
c'est pas facile de... J'ai confondu, je ne pense pas, si, j'ai fait un lapsus, c'est voilà, bien solo lapsus, dans ma tête, avec le S qui est renversé, ma langue a dû chourfer, mais j'en suis désolé. Fourché, bien entendu, je plaisantais aussi.
Alors, Camille. Voilà, donc moi je m'appelle Camille Pasquier, donc je suis comédienne depuis une dizaine d'années maintenant. Voilà, alors j'ai commencé le théâtre très jeune, et puis après ça c'est devenu un peu sérieux, on va dire. Disons que je suis allée en formation à Toulouse, en formation à Paris. J'ai fait surtout des écoles qui forment le comédien à plusieurs disciplines. Le corps, la voix, la danse, le mime, le masque, voilà. J'ai trouvé rapidement du travail, assez jeune, vers 19 ans. Premier contrat professionnel, premier spectacle, jeune public, qui a pas mal tourné. Voilà, et j'ai pas mal travaillé dans le théâtre masqué et chanté, puisque je suis également donc comédienne chanteuse. Voilà, chanteuse pour le théâtre. Donc j'ai atterri à Grenoble en Isère donc en 2009 pour travailler avec une compagnie qui fait donc du théâtre musical. Voilà, depuis donc ces années-là, je poursuis ma route. Et récemment, l'année dernière en 2013, on m'a proposé un travail qui était tout à fait différent de ce que j'avais fait jusqu'à présent, du travail de texte, un texte contemporain. Sur un spectacle qui s'appelle Ballet Brosse, voilà, avec une nouvelle compagnie, la compagnie du Savon Noir. Donc voilà, grosse découverte, beaucoup de plaisir. Mais entre-temps, en tout cas, j'avais débuté solo. J'ai débuté les recherches en 2011.
Mais je crois que vous avez tout indiqué. Est-ce que vous avez également avoué cette ce lieu géographique dont j'ai voulu tout à l'heure que ce soit un point commun. J'étais très attentif à vos propos. Est-ce que vous avez avoué cette ville d'où vous provenez, enfin disons, où vous êtes passé ou si, en êtes-vous originaire?
Alors non, pas du tout, je ne suis pas originaire, donc la question était est-ce que je suis originaire de Saint-Étienne? Non, voilà. Pas du tout. J'y ai fait un passage, voilà,
un passage.
Dans l'année 2010-2011. Mais sinon, je suis originaire du Lot, et puis donc j'ai été en Isère à Grenoble, et puis un peu à Saint-Étienne, et puis je suis de retour à Grenoble, parce que les montagnes, c'est vraiment trop beau. Donc j'ai commencé mon solo un peu à Grenoble, j'ai continué vers Saint-Étienne, et puis j'ai pas mal voyagé avec ce petit solo-là jusqu'à maintenant pour le créer. Et nous voici en 2014, donc 3 ans après le début de mes recherches, et nous voici pour cette série à Lyon, ce qui est un beau parcours, voilà, une suite de l'histoire.
Sophie est en train d'arriver, je crois que c'est un peu compliqué, on va passer la parole à Jean-Marc, parce que oui, vous avez raison, il faut parler de solo, mais d'abord, moi, il me semble intéressant de décliner les identités. Il y a autour des micros Gérald, nous connaissons tous Gérald, qui est toujours responsable de la programmation musicale, c'est... comment dire, beaucoup de talent, la recherche, enfin du moins vraiment un don. Non. Sophie est en train de prendre place, c'est un peu compliqué, est-ce que Jean-Marc souhaite l'accueillir? Oui, il s'agit d'ouvrir une porte, d'entrer ensuite. C'est en direct que cela se produit. Mon Dieu, les invités échangent des bises, donc il y a une bonne entente au clochard céleste, c'est très bien. Où est-ce que Sophie va se placer autour du micro? Est-ce que ça va être possible?
Oui.
Oui, le micro jaune, voilà, en nous révélant les tenants et les aboutissants, tous les ressorts de cette émission. Non, en fait, ce sera le micro rouge pour Sophie. À peine le temps d'enlever son manteau. Mais peut-être que Jean-Marc pourrait également tenir quelques propos pour laisser Sophie s'installer, prendre place, reprendre son souffle. Jean-Marc, vous êtes pour ce spectacle Zoom, je ne vais pas me tromper, vous êtes le metteur en scène, c'est-à-dire, donc quel est votre parcours de metteur en scène? Et puis pas seulement, j'ai cru comprendre qu'il y avait une autre profession qui vous intéresse directement pour Zoom.
Il y a 30 ans de ça, j'étais à l'Éducation nationale, voilà, j'ai démissionné en janvier 84 pour me consacrer entièrement au théâtre. Et puis depuis, eh bien voilà, je vis de ce métier, comédien, j'ai monté moi-même une compagnie, j'ai mis en scène des spectacles, des grands classiques, de Don Juan à Antigone, aux contemporains, par exemple Carole Fréchette, Les 7 jours de Simon Labrosse, une pièce déjantée sur le chômage, et puis Zoom, avec Sophie, et puis voilà, comédien aussi pour d'autres metteurs en scène. Cette année, par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec Jean-Vincent Brisa sur des classiques, Les Femmes Savantes, L'île des Esclaves de Marivaux. Voilà pour ce qui est de mon histoire.
Ça y est,
Sophie.
Ça va? Bonjour.
Bonjour.
Alors nous allons laisser Sophie parler parce que j'apercevais encore dans une présentation sur laquelle j'ai pu mettre la main, un dossier de presse, j'aperçois l'opéra de Katsu. Vous auriez travaillé cela avec Yvon
Chex. Ça c'est
Yvon Chex.
Oui, pour ce qui me concerne.
Oui, pour ce qui.
Oui, j'ai travaillé l'opéra de Katsu. Oui,
directement. Oui. Nous pourrons éventuellement continuer à en reparler, mais Sophie a pris place. Le but du jeu en début d'émission dans Spectaculaire, c'est comme ça à peu près depuis la première émission en mai 2013. Ça va faire un an là. Dans quoi? Dans quelques mois? Une poignée, deux, trois, quatre mois. Cela fera un an que Spectaculaire sévit sur les ondes de Radio Canu, et donc l'émission commence à chaque fois comme ça. Quand les invités sont présents, ils commencent par indiquer qui ils sont, avant de dire plus précisément ce qu'ils font actuellement à Lyon. Donc Sophie, qui êtes-vous?
Eh bien, je m'appelle Sophie Assange, je suis comédienne, et là je suis pour 15 jours en représentation au Théâtre des Clochards Célestes, dans la pièce de Gilles Granouillet qui s'appelle Zoom. Voilà, c'est un solo féminin que j'interprète.
Et auparavant, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez manqué Camille qui a décliné, je crois, indiqué qu'en seconde elle avait eu un bon bulletin au premier trimestre, au deuxième trimestre, ça c'était un peu mal. Je raconte n'importe quoi, vous pourrez vérifier l'émission qui sera réécoutable sur le site. Non, pas forcément la scolarité, mais après, qu'est-ce que vous avez fait?
Alors je suis allée à Paris faire des conservatoires pour prendre des cours, et puis j'ai démarré rapidement, j'ai fait du conte, de la marionnette, j'ai fait pas mal de chant aussi, du théâtre, de l'improvisation, j'ai travaillé sur Paris, j'ai un peu voyagé en France, voilà, des classiques, des créations, un peu de cinéma, un petit peu touche à tout.
Des voyages?
Oui, je suis partie pendant un an et demi presque à l'étranger avec mes enfants, dans un camion.
En famille?
Voilà, en famille. Avant de revenir me poser en Rhône-Alpes, d'où je suis originaire. Et du Lyon 1er d'ailleurs.
Ah, Alors nous sommes bien, nous sommes sur place. Et ces gens de passage, cette compagnie, quand s'est-elle créée? Je n'arrive pas très bien à saisir, est-ce avant ce voyage ou après?
Non, c'est au retour, je l'ai créée en 2007. J'avais envie de monter des spectacles qui me tenaient à cœur, après avoir joué avec d'autres metteurs en scène et d'autres compagnies. Et donc c'était l'occasion de démarrer, et voilà. Donc on a monté des spectacles musicaux, Mesdemoiselles de Paris, qui est un cabaret guinguette avec une accordéoniste, Sylvie Flamin, qui est de Marseille, qui est extra. Et puis de fil en aiguille, j'ai remonté jusqu'à Jean-Marc Galera, dont j'avais déjà vu le travail en région parisienne. Et puis on a monté un premier spectacle en 2011, qui était une adaptation du Décaméron des femmes, avec quatre comédiennes chanteuses. Et puis ensuite, j'ai eu un coup de foot pour le texte donc, de Gilles Granouillet, et je lui ai proposé de continuer l'aventure et de mettre ce spectacle en scène. Voilà.
Vous parliez, Jean-Marc, tout à l'heure de votre compagnie. Vous participez, vous contribuez aux gens de passage, mais vous avez vous-même votre propre compagnie.
Oui, qui s'appelle la compagnie du loup.
Un animal.
Du loup. C'était un clin d'œil. J'ai beaucoup travaillé avec un metteur en scène qui m'a beaucoup appris, qui a vraiment changé ma vie, qui m'a beaucoup appris vraiment dans mon métier, mais qui est décédé en 96 et qui avait lui-même une compagnie qui s'appelait la Compagnie du Tigre. Donc quand j'ai quitté la direction d'un théâtre à Grenoble que j'avais créé, qui s'appelait le Théâtre de Poche, qui existe toujours, mais voilà, donc j'en suis le fondateur dans les années 80, et quand j'ai quitté ce théâtre, j'ai créé la Compagnie du Loup. Voilà, le titre, je vous dis, clin d'œil à mon ami le tigre. Voilà, on rêvait de monter l'histoire de Mowgli, le livre de la jungle.
Donc, c'est ce que je vérifie sur le dossier de presse, ce spectacle Zoom est produit par les deux compagnies, la Compagnie du Loup et les gens de passage. C'est une...
Comment appeler ça ? Coproduction.
Coproduction.
Coproduction. Ouais, c'est une association
d'idées et de
compétences.
De personnes.
Voilà.
Qui s'entendent.
Peut-être nous sommes-nous tout dit. Est-il temps d'écouter
Non, j'espère que non.
Non, bien sûr. Non, bien entendu, tout dit sur qui nous sommes. Parce que, bien entendu, il reste maintenant, je dis beaucoup bien entendu, je vais tenter de le dire encore bien entendu, comme ça fait quatre fois d'affilée. Il nous reste maintenant à évoquer les spectacles à venir, à savoir donc Solo en première partie à 19h au Théâtre des Clochards CS. Je suis sur le site, je n'arrive plus à en trouver l'adresse précisément. Je la retenais à une époque.
Solo-site.fr, mais il est en reconstruction, il n'est pas...
Je parlais du site des Clochards Célestes.
Ah, pardon.
Je crois que c'est sur la rue des Tables Claudiennes, il me semble. Au 51, voilà, c'est ça. Le numéro de téléphone, je le donnerai dans quelques instants. Donc, nous sommes le mercredi 5 et commence ce vendredi 7 février. Ces deux spectacles, Solo d'abord et puis ensuite Zoom. Nous allons en parler. Nous allons absolument tout dire, quoique ça va être difficile, surtout peut-être pour Solo, un spectacle plein d'images, plein de poésie. Comment caractériser cela à la radio? Je sais qu'il y a un teaser qui existe que j'ai pu voir. C'est une sorte de féerie, c'est assez magique. Peut-être qu'on pourrait diffuser certains... Il y a des sons, des bruits, c'est un peu compliqué. Ce que je ferais, c'est que je mettrais le lien de ce teaser sur le blog. Donc ce qu'on va faire, avant d'écouter nos deux invités EES, à savoir Camille et Sophie, ainsi que notre invité Jean-Marc, avant de les entendre nous parler de ces deux spectacles, Solo et Zoom, eh bien nous allons entendre, nous allons écouter également, ça fait beaucoup de répétitions tout cela, nous allons écouter Nico.
L'égérie du Velvet Underground.
Ah, c'est elle, Nico,
bien
d'accord.
Sûr,
parce que il me semblait que Desert Shore, il me semblait que c'était son nom. Nico, effectivement. Donc tu souhaites nous faire...
La 4, le petit chevalier. Très très beau, qui est très court et qui pourra peut-être introduire l'univers enfantin, féerique, de Solo et peut-être même de Zoom, puisqu'il est question aussi d'enfants, d'école et tout ça.
Un titre effectivement très bref, hein, j'aperçois à peine une minute.
C'est
nous écoutons cela, nous reprenons notre souffle.
Parole à nos invités qui sont nombreux aujourd'hui pour parler de deux spectacles.
Je suis le petit chevalier avec le ciel dessus mes yeux. Je ne peux pas me effrayer. Je suis le petit chevalier avec la terre dessous mes pieds. Thank you. J'irai te visiter.
Ce n'était pas Nico exactement qui chantait.
Peut-être son fils.
Son fils, dis-tu Gérald, c'est sur l'album Desert Shore.
Antonin Delon est peut-être le père. Ça dépend à quelle époque elle a... Comme il a cet album, elle en a fait des très beaux. Celui à l'harmonium est magnifique, où elle joue toute seule sur son petit harmonium.
On l'aperçoit, cet enfant, sur la pochette de l'album.
Une chanteuse talentueuse avec un univers très personnel.
On voit également Nico qui est dans du sable, moi, il me semble. Enfin, elle a l'air d'être dans un paysage exotique. Est-ce une transition pour évoquer le paysage de Solo? On aperçoit cela sur le teaser. Qu'est-ce que c'est, une cabine? Et puis qui est ce Solo?
Et où est-il, ce personnage?
Où se trouve-t-il? Camille, à vous la parole.
Est-ce un paysage féerique, un paysage lunaire? Est-ce une île déserte? Est-ce un grenier? On ne sait pas trop, et d'ailleurs ce n'est pas défini. Chacun y voit bien ce qu'il veut. Toujours est-il qu'effectivement il y a un personnage dans cet endroit qui lui est familier, cet endroit avec ses objets, ses affaires. Alors, par où aborder les choses? Comment décrire un petit peu tout ça? C'est jamais facile parce qu'on n'est jamais très bien placés, nous, qui avons créé et qui avons la tête dans le guidon, d'un bout à l'autre. Donc, en essayant de prendre un peu de recul.
Je peux vous aider, là. Je lis une ligne qui me semble très, très intéressante, oui, sur ce spectacle. Ce Solo n'est finalement ni du clown, ni de la marionnette, ni du théâtre d'objets, mais une forme au croisement de ces pratiques. Qu'est-ce à dire?
Oui, qu'est-ce à dire? Eh bien, j'ai écrit cette phrase sur, effectivement, le petit dossier, parce qu'on cherche souvent des cases dans lesquelles mettre les spectacles, sauf que parfois, c'est un peu compliqué. Et là, mon spectacle, donc, j'ai essayé d'utiliser des mots que tout le monde peut comprendre, marionnette, clown, oui, théâtre d'objets, encore faut-il savoir le théâtre d'objets, de quoi on parle exactement. Est-ce qu'il s'agit de manipuler des objets pour en faire des personnages? Non, pas forcément. Est-ce un univers qu'on construit à partir d'objets qui évoquent des choses dans l'imaginaire collectif? Est-ce un décor? Bon, il y a des objets, en tout cas. Le personnage s'en empare, c'est sûr. Il se raconte des histoires avec ses objets, et ses objets le font voyager. Ça, c'est sûr aussi. Il se trouve que c'est un personnage qui est dans une situation de solitude évidente. Mais ma foi, on le voit, voilà, dans ce quotidien vraiment vide. C'est le néant autour de lui. Mais il s'en sort plutôt pas mal. Donc, pourquoi au croisement du clown exactement aussi? Moi, je suis, pour créer ce spectacle, je suis retournée un peu à l'école. J'ai suivi des stages parce que je voulais aborder le travail autour de l'objet, le travail autour du clown, de la marionnette, etc. Mais je n'avais jamais fait ça. On ne m'avait jamais confié un travail pareil. Je vous ai parlé tout à l'heure de... J'étais comédienne chanteuse, j'ai fait du théâtre musical, du théâtre masqué, etc. Et puis là, j'ai abordé un peu le texte contemporain. Mais ça, l'objet, ce mode de jeu et ce langage, je ne l'avais pas du tout... j'avais rien fait de particulier. Par contre, j'avais une envie très forte. Et puis, j'étais allée voir beaucoup de spectacles qui utilisent ces outils, qui sont un peu dans ces univers très visuels, qui parlent à l'imaginaire. Voilà, donc j'ai suivi des stages. Donc, je ne sais plus exactement pourquoi je disais ça, mais enfin, j'ai suivi des stages.
Le croisement des pratiques.
Et le croisement des pratiques, voilà, et notamment des stages de clown. Et ce personnage, en fait, on peut dire que ça résonne avec le clown. J'ai absolument pas la prétention d'être clown, mais on y touche quand même parce qu'il a son fonctionnement propre, il a son langage propre, il a sa mécanique.
La tenue peut-être aussi, une sorte, je sais pas comment nommer ce vêtement.
Le costume?
Oui, voilà.
Oui, il a un costume assez atypique.
Vous avez une sorte de bonnet, comment nommer ça?
C'est une coiffe, oui, c'est un bonnet, une chaussette. Il est blanc, ce costume, oui, tout à fait. Il est assez vaporeux, avec un tissu très ample.
Côté Pierrot la Lune.
Un côté Pierrot, voilà, que je n'ai pas vraiment cherché, qui est là, mais c'est...
Bon, la charcutier aussi, peut-être, je ne sais pas.
Ah oui,
pour donner une image à la radio, peut-être ça pourrait parler. un jour, un spectateur m'a dit c'est un costume, on dirait c'est de l'écume, ce costume. Il est sur une île et puis il est vêtu avec l'écume. Voilà. Bon, c'était assez joli parce qu'effectivement, il est un peu en lambeaux, bon, et blanc. Et donc, il a des choses du clown et notamment, j'ai été très touchée en découvrant le clown. J'en avais fait un peu en école, etc. Mais de voir comme la manière dont un personnage existe en étant simplement là, dans sa solitude pour lui, et dans cette espèce de nudité, d'aveu et de fragilité. Voilà, c'est un personnage qui est très fragile, qui est assez touchant, qui est complètement excentrique.
Avant l'émission, on en parlait un petit peu, c'est un personnage qu'on pourrait dire asexué, comme un ange.
Oui, c'est marrant, ça c'était pas prévu, enfin, j'ai commencé à jouer, je vous parlerai après de la démarche, hein, si on a le temps, de la création, mais le sexe de ce personnage n'a pas été défini. C'est-à-dire que quand on le voit, bon, je suis une femme, hein, ça c'est sûr, il y a...
Ah, mais c'est intéressant ce prénom Camille.
Oui, c'est
je
aussi
connais
un prénom
des garçons,
androgyne,
ouais,
tout à fait.
Camille Desmoulins, oui, on connaît quelques figures. Donc,
et donc
une sorte de prédestination.
Oui, peut-être. Je ne sais pas si c'est parce que le sujet est assez universel et touche homme, femme, et donc finalement on s'en fiche à qui arrive cette histoire, à quel est ce personnage. Je ne sais pas si c'est pour ça ou si c'est voilà, une difficulté de se définir. Mais enfin bon, peu importe. Il se trouve que ce personnage a de la grâce féminine, mais il se prend pour un homme et il l'interprète, j'interprète à travers ce personnage d'autres personnages qu'il se raconte. Et c'est souvent des hommes. Et il se fait pleurer par une femme à un moment. Voilà. Donc, et il s'appelle Solo. S-O-L-O.
Avec un S qu'on peut voir en palingrame, c'est ça, enfin, c'est,
S retourné. Le S, c'est pour le titre. C'est le titre du spectacle. Alors, pourquoi voilà, ça fait une forme de miroir avec
oui,
le
si.
L.
Oui, quand j'emploie ce terme de palingrame, il me semble que c'est un mot qu'on peut lire dans les deux sens. Le mot radar, l'aval.
Voilà.
Il y a carrément un
palindrome.
Non,
palindrome.
Le palingrame, il me semble, c'est le mot lui-même qui se lit dans les. Parce que le palindrome, ce serait Ésope reste et se repose. Je crois que là, c'est effectivement tout un vers qu'on peut lire. Ésope reste et se repose. Ésope reste et se repose. Enfin bref. C'est très intéressant.
En tout cas, si on le met devant un miroir, ce titre, on y lit la même chose.
Également voilà, Solo. Oui, puisque le L et le O se font de manière... Il n'y a pas de symétrie. Vous avez évoqué le sujet, je vous lancerai volontiers un petit peu sur ce sujet, mais je suis en train de voir également Sophie et Jean-Marc, et je me dis, le sujet peut-être est-il plus simple pour Zoom, enfin simple, dans cette complexité, évoquons un petit peu ce personnage de Burt, et puis nous reviendrons sur le personnage de Solo, qui est une sorte homme-femme androgyne, une figure pas vraiment précise. Qui est Burt ? Sophie, vous êtes sa mère, c'est ça ?
Oui, je suis la mère de Burt. C'est d'ailleurs elle qui va parler pendant tout le spectacle, qui va raconter tout l'itinéraire de cet enfant pas gâté, on peut dire ça, par sa mère.
Vous êtes seule donc sur scène ?
Je suis seule sur scène pendant une heure et quart.
Deux soliloques, ouais. c'est deux spectacles, ouais, Zoom et Solo. Enfin, disons, chronologiquement, d'abord Solo à 19h et puis Zoom à, un peu plus tard à 20h15, je crois, très précisément. Donc vous êtes seule sur scène et vous débarquez lors d'une...
En fait, tout se passe pendant une réunion de collège, une réunion parents-prof. Donc, les parents sont installés dans la salle et attendent l'arrivée du professeur principal qui va leur expliquer l'année à venir. Et il y a une femme qui est un peu à l'écart, qui attend, un peu nerveuse et timide. Et puis, le prof n'arrivant pas, et ben, elle décide de... un peu par accident de parler comme ça. Et puis, de fil en aiguille, elle se fait déborder et... elle peut plus arrêter de parler, comme le prof ne vient pas et que les parents...
Et ça, justement, comment est-ce qu'on le comprend ? C'est le personnage qui le dit, c'est ça ? Ou c'est...
Oh, ben, ça se fait tout seul, en fait. Elle prend la parole.
Oui, mais par exemple, comment est-ce qu'on comprend que c'est une réunion de parents entre parents et profs ?
C'est dit dans le texte, bien sûr, qu'elle le dit.
Si, c'est dit.
D'accord, voilà, c'est ça.
D'une manière assez fine.
C'est explicite, oui, que ça se passe dans cet endroit, à cette période, septembre, octobre, à la rentrée des classes où les parents viennent.
Elle se parle elle-même, hein.
Non, elle s'adresse.
Sophie est seule sur scène, mais voilà, mais il y a d'autres.
Qui sont les parents d'élèves dont je faisais aussi partie avant que mon fils quitte ce collège.
Le fameux Burt.
Le fameux Burt.
Que lui est-il arrivé à ce Burt ?
Oh, plein d'aventures, comment dire, en fait, c'est donc l'histoire de sa mère qu'il a eu très tôt par accident et qui se retrouve sans formation, sans travail, seule avec cet enfant. Donc la société, plein de bonnes intentions, essaye de l'aider à travers les assistantes sociales, les foyers, etc. Et elle se sent, par contre, malgré cette bonne volonté, elle se sent enfermée dans des cases et elle ne supporte pas. Du coup, les portes se ferment devant elle. En fin de compte, elle n'a plus envie de se battre et elle refuse ça. Donc elle décide de s'en aller avec son fils. Elle habitait dans la région de Saint-Étienne, d'où est originaire l'auteur d'ailleurs. Et elle s'en va à Paris. Comme son fils a été conçu dans un cinéma, il est évident que ce sera une star. Donc elle le traîne à Paris et elle le fait courir les castings, etc.
Et ce prénom alors de Burt ?
Burt, Burt, il a été conçu pendant tant qu'il y aura des hommes et voilà. Alors du coup, Burt.
Burt Lancaster.
Burt, ça l'inspire comme Burt Lancaster. Voilà.
Et tout cela, donc, c'est assez, assez habile de votre part. C'est peut-être un peu la même chose pour Camille, d'une manière totalement différente. C'est vous faites comprendre des choses alors qu'il n'y a aucun élément, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de... Enfin, comment je veux dire ? Il me semble, pour tenter de trouver une sorte de point commun, où Camille, vous faites passer beaucoup de choses à travers le personnage de Solo, faites passer différentes choses en parlant, ou alors pas seulement en parlant, parce qu'il n'y a pas forcément de texte, il y a quand même quelques paroles qui peuvent être prononcées, mais il y a beaucoup de visuels, disiez-vous, de manière assez, assez sobre et assez simple. Alors que pour vous, Sophie, c'est une réunion de parents-prof, et tout cela, l'histoire de la salle de cinéma par exemple, tout ça on le comprend parce qu'elle le dit. C'est ça.
Elle raconte, elle compte son histoire. Oui, il n'y a pas d'effet. Tout est autour du texte qui, ben, comme son titre l'indique, Zoom, nous fait basculer quand elle raconte. En fait, on rentre dans le film, on zoome sur les événements de sa vie et visiblement ça marche. On est transporté dans ces 14 ans, oui, qui s'écoulent de vie de Burt avec toutes ses aventures.
Même 17. Parce que le jour de la réunion parents-prof, son fils a 17 ans,
oui. Et oui, même 17.
Il y a plusieurs manières de suggérer. Quand on vous disiez tout à l'heure, voilà, vous faites comprendre des choses, peut-être on suggère par le texte dans Zoom. Moi, je suggère par l'image, le geste, l'intention, le voilà.
Des lumières aussi, des objets de décor, enfin, oui. Différentes choses. Je lis. Toujours dans ce dossier de presse, pour vous donner un peu la parole, Jean-Marc, que ce texte vous plaît parce qu'il vous renvoie à deux thèmes qui vous tiennent à cœur sont évoqués ici. Le premier, on l'a évoqué tout à l'heure en début d'émission, pas la peine peut-être de revenir dessus, c'est donc l'école. Mmh. Mais quoi que si, l'école vue peut-être ici de manière normative, autoritaire, génératrice d'exclusion, peut-être un peu négative. Et puis, deuxième chose qui vous plaisait davantage, c'était, enfin, dites-vous, qui fait écho à une passion que vous avez, celle que vous portez au théâtre avec ce langage théâtral. Nous revenons à cette idée, le voix, le corps, les postures, les gestes, les déplacements, les signes d'un langage non-verbal. Et j'aime bien les derniers mots, là où le sensible fait sens et l'émotion amène réflexion. Vous qui mettez en scène ce spectacle Zoom, que pouvez-vous également dire sur Burt ou peut-être sur Sophie ou je ne sais, enfin, comment nous présenter un peu ce spectacle ?
Bon, vous avez dit, vous venez d'expliquer pourquoi j'étais touché par ce texte, mais je suis aussi touché parce que je suis papa, moi-même, de deux enfants, qui commencent à grandir, mais d'un garçon, par exemple, qui a 15 ans en ce moment, et qui se pose beaucoup de questions sur sa place dans le monde. Derrière les grosses voix des enfants de 15 ans, vous voyez, les garçons, ce que ça peut être, là, c'est la puberté, ils ont des poils partout, ils ont la voix qui tombe, les épaules aussi, voilà, et puis ils se croient les rois du monde, et puis, en fait, ils en ont très peur de ce monde. Ben oui, parce que le monde fait peur.
Le monde fait peur. Celui des adultes en particulier, d'ailleurs.
Et oui. Donc, je suis très sensible à ce texte parce que je suis papa, aussi parce que je suis un citoyen, comme je crois le dire dans le dossier, un citoyen concerné, et que ce qui me frappe, moi, dans cette histoire de cette femme, c'est que elle n'a pas les codes que les institutions... c'est un trésor, les institutions, pour une société démocratique, c'est très bien, mais les institutions, en tendance, on parle beaucoup de cases, hein, tu en as parlé pour Burt, et puis Camille en a parlé aussi, mais pour ton histoire à toi, tu parlais de cases au départ, et effectivement, la société, les institutions ont tendance à fonctionner avec des cases. Hein. C'est-à-dire que finalement, là, on n'est plus qu'une case dans un QCM.
Des items, des compétences.
Il y a le terme voilà, étiquette.
Vous, oui. Ben, vous avez tout compris.
Les étiquettes, Nathalie Sarotan traite un peu la chose, même beaucoup.
Et évidemment, cette femme, la mère du Burt, parce qu'elle n'a pas de prénom, on ne la connaît que sous le nom de la mère du Burt, parce qu'au fond, l'histoire importante, c'est celle de son fils. Et la mère du Burt, elle n'a pas les codes. Si bien que ça donne lieu à des scènes d'ailleurs extrêmement cocasses, c'est que on la voit confrontée aux institutions, quelles qu'elles soient, ça peut être l'école, mais c'est aussi le tribunal, mais c'est aussi les assistantes sociales, les éduques, etc. Et toutes ces institutions qui œuvrent pour son bien, a priori, elle se trouve confrontée à eux sans être dans la même logique. C'est-à-dire qu'on a deux mondes qui ne peuvent pas se rencontrer. Au fond. Alors c'est extrêmement cocasse, ça aussi c'est une...
Il y a de l'humour donc,
heureusement, c'est une grande réussite de la part de Gilles Granouillet, ça, d'avoir réussi à mêler le cocasse et le poignant.
Oui, je crois que je tiens un passage cocasse sous les yeux. Un extrait est donné, toujours dans ce sain dossier de presse, sur les motifs, les raisons pour lesquelles Burt a été absent. Bref, c'est toujours donc la mère du Burt, c'est intéressant. Vous dites le Burt, ce serait en quelque sorte. Donc, on lui demande de justifier les jours d'absence. Et puis même, on lui précise que sur les trois jours où il est venu, le Burt a assisté au cours en 1. Robin des Bois, 2. Astronaute, et enfin, comme quoi il ne faut pas chercher aucune crochet dans tout ça, en homme des cavernes. Et on somme à la mère de s'expliquer, disons, on lui somme ça qui est intéressant, c'est elle qui dit tout, hein. j'ai ça sous les yeux, et elle tente d'ailleurs avec une parole qui parfois est un peu curieuse au tout début, quelle belle journée, je m'assois à soi, il y a des sortes de répétitions, il y a comment dire, hein. Elle ne maîtrise peut-être ni les codes, Jean-Marc, ni la parole, Sophie, c'est ça enfin.
Oui, elle n'est pas complètement innocente. Parce que le jour où elle prend la parole, le fils a 17 ans. Oui. Je ne vais pas tout raconter, hein, parce qu'il y a des rebondissements.
Ça
a beau être une... Je vais dire quelque chose quand même, peut-être, que je n'ai pas dit encore. Ce qui m'a emballé aussi dans ce texte, c'est que, tout en étant un texte ancré dans la réalité contemporaine, c'est un texte qui est puissamment classique, puissamment aristotélicien, qui fonctionne avec une espèce de vraie dramaturgie, de progression dans la dramaturgie, jusqu'à une catharsis finale. Et j'ai trouvé ça formidable. Voilà, c'est-à-dire que c'est un texte qui est vraiment abordable, qui est quand je dis aristotélicien, c'est pas pour faire un télo, hein, c'est parce que je crois que c'est un texte qui peut parler à tout le monde, y compris aux plus jeunes, enfin aux pré-ados.
Donc oui, pas la peine d'avoir beaucoup de codes.
Il n'y a pas
de barrage théâtral.
Non, du tout.
Le théâtre, c'est pour les intellos, quoi.
Du tout. Et alors cette femme, elle a eu le temps de réfléchir. Ceux qui viendront voir le spectacle comprendront pourquoi. Elle a eu le temps de réfléchir entre les 14 et 17 ans de son fils, parce qu'il y a 3 ans d'absence où ils ne se sont pas vus. Elle a le temps de réfléchir. Donc elle a compris un certain nombre de choses sur son impossibilité de dialoguer avec les autres. Elle a quand même compris un certain nombre de choses. Voilà, elle n'est pas complètement perdue.
Non, en fait, elle n'est même pas perdue du tout. Elle a juste une autre vision des choses. Mm-hmm. Elle a un langage, justement, vous disiez tout à l'heure, ça s'adresse vraiment à tout le monde. C'est la force incroyable de ce texte, c'est qu'elle a un langage, c'est fleuri, c'est imagé avec des images simples, enfantines et en même temps coup de poing. Et justement, c'est tout ce qu'on disait tout à l'heure, tout ce texte passe par toutes les émotions qu'elle va générer, que ça passe de la colère, du rire, à la sensibilité, aux larmes, etc. Et voilà quoi. Donc c'est vraiment abordable pour tout le monde, et elle n'est pas idiote, elle a sa propre vision des choses qu'elle défend, mordicus, et...
Et ça pose finalement une question fondamentale de toute humanité, de toute époque, c'est celle de la question de l'individu et de la collectivité, de celui de la norme et de la singularité, qui sont des problématiques quotidiennes que connaissent bien les professeurs, les parents d'élèves, les institutions. Et c'est toujours le même problème.
Nous avons eu la chance de présenter ce spectacle.
C'est pas qu'un problème, c'est aussi une richesse.
De présenter ce spectacle devant des publics divers et variés, et en particulier devant des publics de professionnels du social. Mmh. Eh bien, en général, à la sortie, les professionnels du social disent, oh, les acteurs sociaux, mais il faut absolument que tous les profs, les psys, les AS voient ce spectacle pour pouvoir se regarder.
C'est une remarque de travailleur social, ça.
C'est pour pouvoir se regarder en face.
Voir l'autre vision des choses.
Oui, non, mais pour voir leur travers.
Mmh. Oui, bien sûr. Donc c'est riche, critique et profond.
Oui, ça soulève plein de questions.
Voilà, ça soulève des questions, ça le fait d'une manière très, très, très vivante, très, encore une fois, très, très drôle et poignante. C'est pour ça que c'est un langage sensible. On parlait de sensible tout à l'heure. C'est le langage du théâtre, donc le langage sensible. Mais du coup, ça permet de comment dire, vous savez, quand je parlais d'Aristote, c'est la force du théâtre, c'est ça, c'est-à-dire c'est pas de résoudre les problèmes des gens, c'est de présenter les problèmes d'une autre façon, d'une façon sensible qui nous fait observer le monde d'une autre façon, par un autre biais, et du coup pas une façon raisonnée.
Sensible, c'est leur poser les questions. Donc,
n'est-ce plutôt pas, d'y répondre, n'est-ce pas ce que nous pourrions peut-être également dire de du spectacle solo, une manière sensible d'appréhender le monde, enfin, comment dire, j'entends le terme de réflexion qui a été prononcé, on amène à une réflexion, et est-ce que solo peut-être amène également à une réflexion, mais peut-être pas, enfin, dans un même temps, à une sensation, je lis ces quelques lignes, toujours extraites d'un autre dossier de presse, solo est un spectacle tout public, non orienté spécialement au jeune public, son aspect ludique et très vivant permet aux enfants de développer leur propre lecture, ce qui le rend tout à fait accessible aux plus jeunes, mais à côté de ça, le propos est plus naturellement destiné aux adultes, à qui l'interprète s'adresse comme à des enfants. Je vous en prie, Camille, encore quelques mots.
Mais oui, depuis tout à l'heure, je vous écoute sur le sens du théâtre, tout ça. Il n'y a pas de texte. Non, tout à fait, de se poser les questions, de donner à voir des situations, des choses, des personnages, des émotions sous un angle de projecteur, sous un angle singulier. C'est vraiment ça. Il n'y a aucune réponse. Dans mon spectacle aussi, c'est vrai, il y a beaucoup de questions, le sens de l'existence quand elle est si vide de l'autre, quel but à tout ça, enfin voilà, ça pose des questions comme celle-ci et ça n'y répond pas.
La solitude irrémédiable de chacun d'entre nous.
Voilà, sommes-nous seuls. Il y a une phrase, tout est un petit peu parti de cette phrase, c'est très bizarre, hein. J'ai ouvert un bouquin, je suis tombée sur c'était un bouquin qui s'appelle Le corps poétique de Jacques Lecoq que j'avais dans mes valises en répétition.
À défaut d'Aristote, il y a quand même une référence, je vous en prie, Camille.
Voilà, bien lointaine d'Aristote, ouais. Mais bon, quoique. Et donc, j'ai ouvert et j'ai trouvé cette phrase « Chacun est seul sur le cœur de la terre, transpercé par un rayon de soleil, et c'est soudain le soir. » Et je me suis dit « Ah, mais c'est ça !» C'est ça en fait, elle est belle cette phrase. Enfin, je me suis rien dit, ça a été juste un guide. Voilà, bon, je pourrais en raconter beaucoup plus, mais je ne sais pas quel est l'ordre.
Donc, dans Solo, bon, ça va aussi avec la solitude par rapport au titre.
Oui.
Un personnage isolé. Et le texte, il n'y a vraiment pas de texte.
Alors, si le personnage s'exprime dans un grommelot, bien farfelu, avec quand même des mots articulés, des mots en français articulés. Et finalement, on ne dirait pas, mais il y a au moins 3-4 pages, je crois, de mots, de textes, quand même.
D'accord.
De mots articulés au milieu de ce charabia. Il soliloque comme un peu les personnes qui sont seules et
qui parlent
peut-être à un moment, voilà, perdent un peu.
Dans la rue.
Voilà.
Les pathologies urbaines, toutes les maladies du langage.
Exactement. Figurez-vous que j'ai rencontré mon personnage un jour dans le métro à Paris. Ça m'a vraiment touchée. Non, mais vraiment. Voilà, c'est ce soliloque. Donc il s'exprime. C'est très sonore.
C'est peut-être un point commun entre les deux spectacles. On aurait d'un côté une sorte de logorée verbale, de vidage total et poétique, bien sûr, dans les deux cas. Et de l'autre,
Une retenue
Enfin, il est bavard, hein, quand même. Il est bavard.
Un bavard, j'en tiens là. L'alinéa, je crois. Est-ce que nous pourrions écouter ça comme sorte de ponctuation? Et puis nous reprenons finalement, peut-être pas tant les projets, mais creusons encore sur cette mère d'Hubert. Peut-être pourrions-nous tenter d'en dire un peu plus, sans trop en dire, sur ces 3 ans de solitude qu'elle passe. Mon Dieu, mais où est-elle? Moi, je le sais. Et puis peut-être encore quelques mots sur Solo. Nous diffusons donc un petit peu de l'alinéa. Ensuite, il y a Parole de Jacques Prévert qui est calé, mais l'alinéa avec ce personnage lunaire, ce personnage très particulier. Donc écoutons et puis poursuivons toujours sur Spectaculaire, radiocanu.org si vous souhaitez nous écouter sur Internet, ou bien le 102.2 de la bande FM à Lyon.
C'était donc La Linea, un grand classique de l'animation italienne des années 70, qui a bercé l'enfance de certains d'entre nous, la mienne par exemple. Ça passait dans L'île aux enfants d'ailleurs, je crois que c'était mon émission préférée, de Osvaldo Cavandoli. Plus de 30 ans après sa création, Monsieur Linea, le petit homme tracé au crayon avec sa ligne métamorphique par Osvaldo Cavandoli, n'a pas pris une seule ride. Donc ça existe en DVD, on peut trouver ça sur Internet, il y a un DVD qui comprend les 30 épisodes. Voilà. 1h24.
Gérald, avez-vous amené cet extrait de l'alinéa?
Parce que en consultant les dossiers de presse, en compulsant, je dirais même, les dossiers de presse, je me suis aperçu qu'il y avait référence à l'alinéa Robinson Crusoe. Je me suis dit, l'alinéa, bien sûr, j'adore, je l'ai dans ma vidéothèque, je vais vite aller le chercher.
Voilà, c'est Gromit aussi, les cartoons Pinocchio, enfin.
Il y a un point commun avec Solo, alors je renvoie la question.
Oui, voilà, non, c'était pour faire le lien. Effectivement, j'adore l'alinéa, je l'ai vu dans mon enfance, sans doute c'était intégré quelque part au fond de moi et c'est ressorti là sur Solo. Quelqu'un un jour m'a dit « Ah, tu sais, là, tu connais l'alinéa ? Oh, j'ai vu ça un peu, le personnage, à un moment. Ah ouais, des moments, c'est vraiment... » Ah, j'ai dit « Ah, mais c'est bien sûr !» Et voilà, j'avais oublié. Donc, même si l'alinéa a un petit côté affreux,
Solo est plus...
semble plus sympathique, mais on l'aime bien quand même, l'alinéa. Voilà, mais c'est cette même sympathie.
Il est tendre, tendre, grossier, mais dans ses défauts, il reste sympathique.
Ouais. Et c'est cette sympathie là que je trouve qu'il y a dans le personnage de Solo aussi.
Nous parlons de deux spectacles, Solo ainsi que Zoom, qui sont donnés au Théâtre des Clochards Célestes. Enfin, Théâtre des Clochards Célestes, pas encore donné. Ça commence vendredi. Et si vous souhaitez des précisions, je les ai enfin sous les yeux. Le Théâtre des Clochards Célestes se trouve également dans le premier arrondissement. C'est à quelques pas de chez nous. C'est au 51 de la rue des Tables Claudiennes. Et numéro de téléphone, si vous souhaitez contacter pour avoir des renseignements sur la billetterie, sur je ne sais, le 04 78 28 34 43. 04 78 28 34 43. Je donnerai le lien du site sur le blog de l'émission. Et donc, ces deux spectacles, nous venons à l'instant de parler un peu de Solo avec ce personnage de l'alinéa. Et Zoom, est-ce qu'on pourrait retrouver quelque chose? Non, on ne peut pas toujours trouver des points communs avec les choses. Là, ce n'est pas possible.
Il ne faut pas chercher.
Non, exactement. On peut parfois refuser de chercher, ce n'est peut-être pas nécessaire. Mais Jean-Marc, metteur en scène, Sophie, si vous trouvez quelque chose.
Aux crises très énervées du personnage de l'alinéa. Et c'est vrai que la mère d'Hubert, qui n'arrive pas toujours à gérer rationnellement ses émotions, pique des fois des colères explosives pour retomber après. Et ça pourrait.
Alors, pourquoi cette mère d'Hubert, elle appelle son enfant le Bert, c'est ça ou c'est
Elle l'appelle Bert, mais vu que l'intérêt du spectacle, c'est l'histoire de cette enfance, et pour pas aussi, je pense, la confiner dans une époque, dans un endroit, dans... Voilà, que ça puisse être universel, que tout le monde s'y reconnaisse, voilà, pour ne pas le mettre encore une fois de plus dans une case, que cette mère soit pas dans une case.
Oui, non, mais enfin,
qu'elle n'a pas de nom. Et...
Il est tellement réel qu'il redevient imaginaire avec ce prénom aussi, peut-être.
Voilà, ma question m'apporte sur, comment dire, cette nominalisation, enfin, du moins, cette substantivation. Ce Bert devient un nom commun. Le Bert. Enfin, voilà, généralement, je crois que c'est en portugais.
Comment on dirait le Raymond dans les campagnes.
Voilà, exactement, en portugais également. Ça peut être
c'est une sorte de
langue d'affection.
Oui, dans des milieux ruraux, par exemple, on dit bien le Raymond, le François.
On dit même le Maman.
Ouais.
Très bien. Ces spectacles sont donnés jusqu'au 19 février, ça commence ce vendredi 7. Êtes-vous fine prête? Je ne sais pas si ça se passe au féminin, cette expression, Sophie et Camille. Est-ce que ces spectacles ont déjà été joués, que ce soit Zoom ou bien solo, ils ont déjà une vie derrière eux? Oui.
Oui, moi j'ai commencé à chercher il y a 3 ans, j'ai commencé à le jouer il y a à peu près 2 ans. Dans une première forme, et puis ça a évolué sans cesse, et puis j'ai fait une grosse reprise l'année passée. En tout, on va dire qu'il a été confronté au public depuis sa première forme, hein, on va dire, une petite 20aine de fois. Voilà. 20-25 si je compte les présentations en cours de travail, etc.
Et ça fera encore donc 10 fois au Théâtre des Clochards-Célestes, à peu près?
Voilà, 10-12 fois précisément, et c'est bien, et il faut bien ça, moi en tout cas pour cette partition que je me suis imposée, on va dire, avec cette création. Là maintenant, ça y est, je suis arrivée à une forme qui ne me satisfait pas complètement, évidemment, il y a toujours à faire, mais voilà, ça respire, ça joue, ça s'amuse, ça bouge, je me sens libre, enfin c'est, voilà, c'est maintenant que c'est ok.
Pour le plus grand bonheur du public.
Voilà, pour le grand bonheur du public.
Et si le public ne vient pas, on pourrait parler d'un DVD, je crois, qui...
Oui, il y a une captation qui va être faite à l'occasion là, des clochards, aux clochards. Et puis la réalisation du DVD va suivre dans fin février, et il sera prêt après.
Vous aurez des informations. Et ce spectacle Zoom, a-t-il une vie derrière lui déjà?
Créé en février 2013.
Donc ça fait un an.
Ça fait un an. Pareil, le projet remonte à 2011. La découverte du texte, le fait d'en parler ensemble, la recherche des partenaires, etc. Il a été joué sur la région Rhône-Alpes essentiellement depuis un an. Et puis voilà, les Clochards Célestes sont venus nous voir à l'occasion d'une représentation sur Lyon. Et du coup, on a découlé cette série de 12 représentations.
Et donc là, vous êtes prête, les réglages sont peut-être moins importants que si c'était une première ou alors seulement une reprise. Là, vous avez vos marques dans ce...
Oui, on a repris nos marques, on a réadapté l'éclairage, on a retravaillé exprès pour l'adapter au théâtre.
Ce n'est pas un spectacle qui est dépendant de la technique du tout, volontairement, parce que d'abord ça ne s'y prêtait pas, moi je pense que c'est une parole et que cette parole... J'ai grenouillé lassitude dans une réunion parents-prof. C'est vrai que je pense que cette parole, elle doit aller vers les gens, vers les parents, vers les enfants, vers les gens. Donc l'intérêt pour moi, c'était de faire un spectacle qui puisse se jouer en théâtre aussi bien qu'hors les murs, dans des salles de pas perdus, ou des salles de réunion, ou des garderies, voilà. Ce qui nous est arrivé, d'ailleurs. Et c'est donc pour ça que la mise en scène n'est pas... contraignante.
Voilà, indépendante.
La mise en scène, c'est avant tout de la direction d'actrice.
C'est ça le théâtre finalement. Combien de cinéastes sont dévoyés à force d'avoir des trop gros budgets? C'est peut-être pareil pour le théâtre, non?
Eh bien, oui, si je peux dire juste un mot à ce sujet rapidement. Question du budget, moi, effectivement, quand j'ai commencé à chercher, j'avais rien, zéro, que dalle. Et je voyais même pas comment j'allais trouver quoi que ce soit, je savais même pas ce que j'allais faire. Rien. Donc je me suis dit, très bien. De toute façon, il n'y a plus de fric, il paraît. Il n'y a plus rien. Voilà, on va tous mourir. Donc, non, on ne va pas tous mourir. On va quand même continuer, parce que ça s'est toujours fait. Et donc, j'adore les brocantes, les vieilles broles, la récup, tout ça. Je voulais travailler avec l'objet. C'est tout ce que je savais aussi. Et je savais qu'il fallait que je dise quelque chose, parce que pour demander au public de se taire pendant une heure et demie, et monter sur une scène, bon, il en faut. Alors, voilà, j'avais cette récup... Et j'ai fait effectivement avec 3 bouts de ficelle. Quand on voit le décor, les gens, en général, aiment beaucoup ce décor qui semble complètement de briques et de broc, etc. Qui est vraiment de briques et de broc.
Qui est poétique.
qui est poétique, qui a une force, une histoire, un passé qui est poli, qui est, voilà, qui est ramassé. Et voilà, et j'ai bien aimé cette nudité, ce manque de moyens, parce que ça m'a contrainte, propulsée dans un imaginaire très fort. Voilà. Mmh.
Ce n'est pas le mot de la fin, mais écoutons un extrait de Jacques Prévert, L'école des beaux-arts. À propos de parole. Et puis nous continuerons, ça n'est pas encore terminé. Encore quelques minutes, le blues des canuts. Non, je n'aperçois pas Pascal. Donc 40
trois
secondes,
vous allez voir. Si possible.
C'est très bref.
L'école des beaux-arts. Dans une boîte de Paris tressée, le père choisit une petite boule de papier et la jette dans la cuvette devant ses enfants intrigués. Surgit alors multicolore, la grande fleur japonaise, le nénuphar instantané. Et les enfants se taisent, émerveillés. Jamais plus tard dans leurs souvenirs, cette fleur ne pourra se faner. Cette fleur subite, faite pour eux, à la minute, devant eux.
Oh là là, est-ce que c'est bref ça, Gérald ? Donc 40
comme toujours,
secondes.
Bref et efficace.
Du Prévert. Prévert, poésie, donc oui, cela correspond bien à Solo et Zoom de la poésie. C'est vrai que c'est compliqué toujours. Je ne sais pas pourquoi je cherche
à les rapprocher.
Ne cherchons pas. Mais c'est un défaut que j'ai. Je suis bourré de défauts. J'ai des tics aussi. Bref, comment clore ? Encore quelques mots, Gérald, des annonces.
Avant
oui,
de clore et peut-être d'écouter une chanson un peu rebelle pour en revenir à la norme, à l'individu et cette dialectique problématique. J'aurais aimé faire trois petites annonces, très simples, à propos de théâtre. C'est un peu du copinage, mais c'est pas grave. Vous pouvez, on reparlera de ça mercredi prochain, mais il y a un cabaret biscornu qui va se jouer le 14 février à 19h30 au bar Le Nakamal, dans le 9e, je crois, Vervez. Donc ce sont deux jeunes actrices, auteurs qui font de la musique. Il y a Maud Hardiette qui est harpiste, qui joue sur scène, qui est aussi accordéoniste, et Clara Vincent qui est actrice, chanteuse, etc. Elles font une contre-Saint-Valentin détonnante. C'est un théâtre érotico-humoristique, et pour l'avoir vu, je vous dis d'y aller, c'est un bon moment à passer.
C'est ça, c'est donc le 14 février, vendredi.
Le 14 février au Nakamal, mais ce sera... Je répéterai ça la semaine prochaine. La deuxième annonce, j'ai la semaine dernière, grâce à notre ami Martin et ses antécédents, qui étaient venus faire une émission aussi,
qui a fait
un concert magnifique dans son local de tapissier. Il avait invité un duo qui s'appelle Les Réalistes, et c'est un cabaret de poche pour chansons mal famées, j'ai beaucoup apprécié. Il se trouve que ce sont en plus des collègues de Radio Canu, donc on va se revoir. Et ça serait bien un jour qu'ils viennent chanter en direct, parce que c'est vraiment exceptionnel, des chansons de 1840 à 2014, des Gaston Couté, des chansons merveilleuses. Voilà. Et la troisième annonce, alors voilà, j'espère que ça ne deviendra pas un rituel, mais des fois il y a des hors-séries quand même dans les kiosques qui sont passionnants. Je n'achète jamais le Nouvel Obs, plus que Télérama, je refuse de m'abonner à Télérama, mais il y a des hors-séries intéressants et passionnants. La semaine dernière c'était 14-18, et cette semaine j'ai craqué pour le Nouvel Observateur hors-série sur l'érotisme dans l'art, et j'ai lu et commencé, et franchement c'est intéressant, c'est passionnant, ça passionnera non seulement les érotomanes de mon espèce, mais d'autres, bon. Les esthètes, les philosophes, les religieux, les intégristes, tout le monde trouvera quelque chose à glaner. Des textes, les intervenants, c'est pas n'importe qui, Jean-Claude Carrière, Michel Onfray, Olivier Py, Boris Cyrulnik, Dominique Fernandez, Stéphane Guégan, Philippe Dagen, Marie Darrieussecq, Philippe Solers, que demander de mieux.
Quelle émission dans laquelle nous avons évoqué Aristote et Jacques tout à l'heure, Camille, c'était Jacques Lecoq, non ?
Jacques Lecoq.
Jacques Lecoq. Je voulais tendre, enfin pas un piège, mais je voulais mettre le couteau sous la gorge à Sophie, lui dire j'ai un extrait sous les yeux, allez-y, déclamez-le, puis non, c'est le temps file un peu, c'est peut-être toujours difficile là derrière un micro de commencer ça aussi, j'ai dû expliquer au chef d'établissement quand le chef d'établissement m'a convoqué, je vous en prie, asseyez-vous, quelle belle journée.
Donc je m'assois.
Exactement, voilà, je ne vais pas vous tendre ce piège, je ne vais pas non plus, moi, lire cet extrait. Je vais tenter de mettre ce dossier de presse sur le blog de Spectaculaire, parce que ça peut être intéressant d'avoir accès à ces informations. Vous connaîtrez toute la vie de Jean-Marc qui était avec nous, de Camille également et de Sophie. Je parle à l'imparfait parce que l'émission, je crois, se termine. Il faudrait être ponctuel, 14h58. Si, très bien.
Il y aurait Thomas Fleur peut-être,
François Béranger, c'est ça,
François Béranger.
Nous écoutons et puis nous enchaînons.
Le vrai changement, c'est quand? Beaucoup de gens se posent la question,
Une bonne question. Et nous enchaînerons.